Ça jase à Lyon sur Jazz Radio et LyonMag.com avec Alexis André.
Bonjour à tous pour ce nouveau numéro de Ça jase à Lyon. Je reçois ce matin l'historien Philippe Valode. Bonjour Philippe Valode.
Bonjour.
Sur près de 250 pages, vous proposez aux lecteurs de se plonger avec Lyon 100% vintage dans les lieux symboliques de Lyon mais aussi de Villeurbanne. Mais à la belle époque, hein, il y a plus de 100 ans, pour ça vous vous basez principalement sur des cartes postales. Combien de temps vous aviez passé à compiler toutes ces données?
Vous savez que ce livre vient d'une édition originale grand format, dans lequel il y avait 425, je crois, cartes postales que nous avions mis plusieurs mois à repérer. D'une part, bien sûr, chez les collectionneurs, ça c'était quand même l'essentiel, et puis aussi chez des spécialistes, c'est-à-dire des maisons de cartes postales qui ont conservé leur vieille collection et qui en ont au moins un exemplaire dans leurs archives et qui nous ont autorisé à avoir accès.
Alors, la particularité de Lyon 100% Vintage, c'est qu'il fait partie d'une collection qui est lancée par les éditions Hervé Chopin, où l'on retrouve aussi Marseille, Bordeaux, Nantes 100% Vintage. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette possibilité de ressortir une version allégée, entre guillemets, de Lyon d'antan, hein, le livre dont vous venez de parler, qui était votre ouvrage original, qui était sorti il y a 11 ans?
L'intérêt du Lyon Vintage, c'est d'une part que c'est un ouvrage moderne qui s'adresse à tous les publics et notamment au public jeune. C'est un ouvrage bon marché. Il est 2,5 fois moins cher que la version originale. C'est un ouvrage de poche, donc c'est un ouvrage pratique à emmener avec soi, à consulter. Je dirais à emmener aussi même en vacances. Voilà, je pense que, comme vous le savez, nous traversons une grave crise du livre papier, eh bien, les versions poche vont sauver, je pense, le livre papier parce que c'est l'outil le plus performant qu'on puisse imaginer. Pas cher en papier, jetable, pas encombrant, etc.
Cette réédition élargie à tout le pays, ça résulte d'un regain d'intérêt des Lyonnais, des Français en général pour l'histoire, le patrimoine, le passé, selon vous?
Alors, je crois qu'on peut le dire d'une manière générale de l'ensemble de la France, mais pas des Lyonnais. Les Lyonnais ont toujours été très passionnés. Comme vous le savez, il y a eu beaucoup d'associations fondées, notamment patrimoine, pour défendre le patrimoine lyonnais et notamment, ben, vous savez de quelle manière on a pu protéger
le vieux Lyon,
etc.
Alors, votre ouvrage est avant tout visuel, hein, on peut se rendre compte des changements physiques de la ville. D'ailleurs, Lyon a cette particularité, c'est qu'on reconnaît assez facilement les lieux, hein, mis à part les quartiers de la Confluence où on est aujourd'hui ou le quartier de la Part-Dieu. Finalement, tout n'a pas vraiment bougé.
Alors, l'ouvrage décrit Lyon aux alentours de l'année 1900, c'est-à-dire au passage du siècle, du 19e au 20e siècle. Et comme vous le savez, cette date se situe entre deux grandes époques, finalement, de l'évolution urbaine de Lyon. La première, qui est celle générée et dirigée par le préfet Weiss, c'est-à-dire l'Haussmann lyonnais, qui a permis de tracer les grandes rues qui traversent la presqu'île et de donc changer totalement la physionomie de Lyon. Et la seconde, qui est celle conduite par Édouard Herriot, avec son architecte préféré, Tony Garnier, dont on voit encore aujourd'hui les monuments, la trace des monuments, depuis l'hôpital Édouard Herriot, en passant par la Grande et bien sûr le stade de Gerland.
Ces cartes postales sont également l'occasion de découvrir les loisirs préférés des Lyonnais à l'époque. Hein. Certains sont toujours là, mais beaucoup ont disparu. Les joutes, le patin à glace sur le lac du parc de la Tête d'Or, les défilés des étudiants lyonnais, comment ça s'explique?
Ça n'a pas totalement disparu, il y a même des choses qui reprennent. Vous avez cité les joutes, je crois que maintenant, à nouveau, il y a des séances de joutes avec des clubs, etc. Et je crois que ça se passe sur la Saône, et évidemment, c'est plutôt un sport d'été qu'un sport d'hiver, on comprend bien pourquoi. Parce qu'on tombe facilement à l'eau, notamment les perdants. Voilà. Alors, pour le patin à glace, ben, je crois que c'est l'évolution de la réglementation qui est en cause.
Ouais.
Et puis aussi le fait que les hivers lyonnais sont un peu moins rigoureux qu'autrefois.
Alors, il y a les photos, mais il y a aussi les anecdotes qui font que la lecture du livre peut également instruire. On ne va pas toutes les citer, mais on en a retenu quatre ensemble. La première, elle concerne la boule lyonnaise. On pourrait croire qu'il s'agit d'un jeu millénaire. Mais en fait, pas vraiment.
Non, pas vraiment. C'est même un jeu assez récent. Et pour dire la vérité, ce n'est qu'en 1909 que la dimension de la boule lyonnaise a été fixée de manière claire. Alors évidemment, la boule lyonnaise, ça ne parle, vous le savez, qu'à la moitié de la population lyonnaise, puisque les hommes s'en sont emparés et on voit rarement des femmes jouer aux boules. Si vous me demandez pourquoi, je refuse de répondre.
La deuxième anecdote, elle concerne la place Bellecour, la célèbre place du 2e arrondissement. On a tout entendu sur elle, notamment sur la statue. de Louis XIV.
Oui, alors la statue de Louis XIV, donc la place Bellecour, au départ c'était en deux mots, là, c'est-à-dire ça s'appelle même le près de Belle plus loin Cour. Voilà. Ça a été aménagé sous Louis XIV en 1658 et la statue des Jardins est venue prendre sa place environ 25 ans avant la mort du grand roi en 1691. Mm-hmm. Puis cette statue a été brisée et fondue sous la Révolution et on a demandé à Le Mot d'en réaliser une seconde, ce qui a été fait en 1828. Et en 48, au miracle, il y a la révolution de 48 ouvrière, et elle a subsisté. Et elle a subsisté pour une raison toute simple, c'est que pour la sauver, les Lyonnais ont changé l'inscription. Les Lyonnais avaient mis en l'honneur de Ludovicus Magnus, et les Lyonnais l'ont changé et ont mis « chef-d'œuvre de Le Mot, sculpteur lyonnais ». Et moyennant quoi, les révolutionnaires lyonnais l'ont épargné. Alors, on a beaucoup dit que le sculpteur, le premier des Jardins, s'était suicidé parce qu'il aurait oublié les étriers du grand roi. Mm-hmm. Mais en fait, c'est totalement faux. Il ne s'est jamais suicidé, en tout cas pas pour cette raison. À l'époque, en parade, on montait sans étrier et le roi Louis XIV, le premier, naturellement.
Troisième anecdote, elle concerne une phrase qu'on a tous déjà entendue à Lyon. La colline qui prie, Fourvière, et la colline qui travaille, la Croix-Rousse.
Oui.
Sauf qu'à une époque, c'était le contraire.
Et oui, alors à une époque, c'était tout à fait le contraire, puisque, comme vous le savez, la soie a commencé avec Louis XI et François Ier, sous Louis XI et François Ier. Les premiers ateliers ont été installés dans le quartier Saint-Georges. L'industrie de la soie a commencé au pied de la colline de Fourvière. Et côté Croix-Rousse, c'est très intéressant de constater que la Croix-Rousse, qui tient son nom de cette fameuse croix dressée sous François Ier, en pierre, en calcaire de Couzon, qui soit 10 ans, devient rousse lorsque, à la tombée du soleil, enfin, lorsque le soleil se couche. Bon, ce qui est un petit miracle que j'ai rarement vu se réaliser sous mes yeux. En fait, c'était un quartier de jardins peuplé de monastères. Il y avait, je peux vous le dire, on peut tous les citer, les bénédictins, les carmélites, les chartreux, les capucins, les augustins, les jésuites et même les missionnaires de Saint-Joseph. Donc, vous voyez, la Croix-Rousse était la colline qui priait.
Oui.
Et Fourvière, celle qui travaillait.
Et puis, dernière anecdote, Philippe Valode, elle concerne l'un des symboles de Lyon, la fontaine Bartholdi, hein, qui va bientôt disparaître pour être rénovée.
Oui.
À la base, elle n'était pas destinée à Lyon.
Non, non. Alors, elle a fait son apparition sur cette fameuse place des Terreaux en 1889. Et elle est réalisée en plomb, ce qui est un métal rarement utilisé parce que c'est extrêmement coûteux. Parlez-en aux collectionneurs de soldats de plomb.
Mm-hmm.
Et donc, elle a été achetée par la ville de Lyon à Bartholdi, non pas parce que la ville de Lyon l'avait commandée, mais parce que Bordeaux, à qui elle était destinée, l'a refusée. Autrement dit, ce fameux quadrige, ce n'est pas du tout une représentation du Rhône ou de la Saône, c'est une représentation de la Garonne. Voilà, exactement.
Et puis, dernière question, toutes ces cartes postales, c'est bien sûr du pain béni pour les historiens, pour les passionnés d'histoire. Mais à l'époque, quel était l'intérêt d'envoyer une carte avec la gare de Perrache, avec le marché au port de Vaise ou les bateaux du Quai Rambaud?
Oui, alors je crois qu'on est dans une époque qu'on n'imagine pas, c'est-à-dire on est en plein début de la révolution industrielle.
Oui.
Donc ça intéresse les gens. C'est une manière de cultiver, c'est une manière d'affirmer la supériorité de sa ville. Elle a le PLM, elle a la plus belle halle aux bestiaux de France, elle a, etc. Et c'est une manière de démontrer que Lyon est une cité dynamique.
Merci Philippe Valode. Je rappelle la sortie de Lyon 100% Vintage aux éditions Hervé Chopin. Et notre entretien est à retrouver en intégralité sur lyonmag.com.
Ça jase à Lyon sur Jazz Radio en partenariat avec lyonmag.com.